Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur nos ondes locales. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle chronique du passé. Et bonjour Gilliane.
Bonjour Martine. Et bonjour à tous. L'Hôtel Dieu de Bourg-en-Bresse est définitivement fermé aux patients depuis ce 8 juin 2023, après plus de 230 années de fonctionnement.
En effet, ce bel édifice a été solennellement inauguré le 16 décembre 1790, alors que la France était déjà enflammée par la Révolution.
Ensemble, nous évoquons ces plus de 2 siècles d'histoire après avoir écouté « Assaïra », chant révolutionnaire qui date lui aussi de 1790. Et ceux qui fréquentent le boulevard de Boux à Bourg-en-Bresse ne peuvent que voir la longue façade de pierre blanche de l'ancien Hôtel Dieu. Il affiche plus de 2 siècles d'histoire.
Depuis le Moyen-Âge, la ville a un Hôtel Dieu à proximité de l'église Notre-Dame. Elle l'a agrandi, déplacé à plusieurs reprises, mais l'espace manque encore. 20 ans plus tôt, dans les années 1770, les édiles souhaitent regrouper l'Hôtel Dieu et la Charité en un seul édifice, sur un lieu mieux approprié, à proximité de la Ressouze.
Le choix se porte sur un terrain, juste en dehors de la ville, le long de la route de Pondin. L'hôpital ne possède pas tout le terrain, mais des échanges, voire des achats, paraissent possibles. Mais une difficulté survient.
Le legs d'Anne-Marie Crollet, né en 1649 à Vona et décédé à l'âge de 38 ans, a permis la création de la charité pour les jeunes filles mendiantes. Mais l'acte de donation n'autorise pas un éventuel regroupement avec l'Hôtel Dieu. Le projet est mis de côté, puis repris en 1777 avec une démarche un peu particulière.
Oui, la ville souhaite se procurer un plan à faible coût. Et ensuite, confie la construction à Gaspard Chauvrèche, l'architecte de la ville.
Dans ce but, elle demande à Jérôme Lalande, l'astronome burgien qui a ses entrées à Paris, d'intervenir auprès de l'Académie d'architecture. Le projet de Bourg pouvant faire l'objet d'un concours de fin d'études.
L'Académie refuse de cautionner et une telle démarche et le projet d'un jeune sans expérience.
Au même moment, l'intendant de Bourgogne, qui est l'équivalent d'un préfet de région d'aujourd'hui, souffle le nom d'un architecte byzantin, Pierre-Adrien Paris, chargé de l'organisation des menus plaisirs du roi à Versailles. Cet architecte construit alors la prison de Chalon-sur-Saône. Cela n'a pas beaucoup de rapport avec un hôpital, mais il a de l'expérience.
Il vient à Bourg, rencontre les autorités qui lui remettent les cahiers des charges des différentes corporations qui interviennent à l'hôpital, notamment les religieuses et le personnel médical. Mais dans la réalité, ce sont les religieuses qui gèrent l'administration des biens de l'hôpital et l'apothicairie. Ces religieuses hospitalières sont issues de la bourgeoisie et de la noblesse peu fortunée. Sinon, elles seraient mariées. Ce n'est pas une critique, hein. Juste un constat de la société sous l'Ancien Régime.
L'hôpital comprendra 2 parties, un couvent et des salles pour les malades. Un budget est défini, mais un édile souffle à l'architecte qu'il serait possible d'aller au-delà par la vente de bois. L'architecte se met au travail et conçoit un bel édifice en tenant compte de l'étroitesse du terrain et de sa pente. Peut-être plus une œuvre architecturale qu'un hôpital seulement fonctionnel.
Le couvent sera en façade et comptera 2 carrés avec des cours intérieures. Les salles des malades seront à l'arrière, en superposition et en forme de croix, la croix chrétienne. Ce projet est chiffré, mais il dépasse les possibilités de la ville. Une ville qui compte à peine 7000 habitants, et encore avec les quartiers agglomérés.
Le projet est refusé. L'architecte le revoit à la baisse. Les commanditaires se ravisent. Mais pourquoi se priver du meilleur ? L'architecte a présenté un long mémoire où il explique ses choix architecturaux. La négociation s'engage alors sur un autre terrain.
Mais oui, il n'a pas été dit à l'architecte qu'on voulait seulement les plans, sans le suivi des travaux. Les négociations se poursuivent et, de guerre lasse, l'architecte cède ses plans et récuse par avance un édifice qui ne sera pas son ouvrage.
Gaspard Chauverèche, l'architecte local, a déjà pris le relais. La ville l'a engagé avant même l'accord avec Pierre-Adrien Paris. Il établit les devis des travaux, en traitant avec les meilleurs artisans, sans mise en concurrence, selon le souhait de la ville. Elle veut des gages de qualité. Lorsque les soubassements sont terminés, la première pierre est officiellement posée le 1er septembre 1783.
Les travaux vont bon train. Et dans la partie terminée, on loue même des locaux à une filature de coton. Partout en France, le peuple souffre de mauvaises récoltes et gronde. Les États généraux sont convoqués en mai 1789 et, en amont, chaque paroisse a rédigé son cahier de doléances.
À Paris, les députés du tiers-État sont en opposition avec ceux de la noblesse, qui ne consent à aucun compromis. La révolution survient et la prise de la Bastille, une prison, en est le symbole. Les événements se succèdent et les biens de l'Église sont mis à la disposition de la nation le 2 novembre 1789. Mais que devient l'hôpital géré par les religieuses ?
On établit un inventaire, mais on laisse l'hôpital poursuivre son œuvre en faveur des pauvres et des malades. Bien sûr, il y a des religieuses, mais pourquoi intervenir et modifier un ordre établi ? Autant laisser le cours des choses. Et la construction du nouvel Hôtel-Dieu continue.
Avec quelques difficultés. Son coût est plus élevé que prévu et les ressources manquent. Les chartreux de Seyon offrent une somme. Une souscription permet de financer 120 lits métalliques. Ils sont plus sains que des lits en bois. Les travaux se terminent et
le transfert de l'ancien vers le nouvel Hôtel-Dieu se fait le 16 décembre 1790 par une procession solennelle avec les autorités civiles et religieuses en tête. Chacun prend ses quartiers dans le nouvel édifice très spacieux. Le dôme, au-dessus de la chapelle, n'a qu'un rôle décoratif. Les salles des malades ont 17 pieds de hauteur, soit environ 5,50 m. Elles sont éclairées par de larges baies et elles peuvent être facilement aérées.
Tout est réussi dans cet Hôtel-Dieu. La finition des travaux est remarquable, que ce soit l'escalier monumental à double volet, les boiseries ou l'apothicairerie avec son millier de contenants. Gaspard Chauverèche n'a pas trahi l'œuvre de Pierre-Adrien Paris, même si des éléments décoratifs ont été supprimés, comme le portique nord. La somme dépensée est supérieure de 2/3 à celle envisagée au départ, mais la ville s'est dotée d'un très bel Hôtel-Dieu. Est toujours géré par les religieuses.
Toujours. L'Hôtel-Dieu est désormais un hospice d'humanité. Mais comme il remplit son rôle, personne n'intervient. Jusqu'au moment où le fossoyeur est surpris, transportant des habits sacerdotaux. On soupçonne les religieuses de faire venir un prêtre pour célébrer la messe. Alors elles sont expulsées, voire emprisonnées, à l'automne 1793.
Pour les remplacer, on nomme du personnel laïque et un pharmacien, mais ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche, en une période fort troublée. La fureur révolutionnaire passée, la ville se résout à faire appel aux deux sœurs Chambard, auparavant religieuses hospitalières et désormais citoyennes. Elles acceptent. Dorothée Chambard prendra la direction de l'hospice et Félicité Chambard, celle de l'apothicairerie. Mais elles posent leurs conditions.
Elles exigent notamment le retour de 6 de leurs collègues et la liberté de culte. Les édiles l'acceptent. Et l'hôpital poursuit son action malgré toutes les difficultés. Les guerres napoléoniennes qui amènent en Bresse des prisonniers des contrées européennes. Puis, à la chute de Napoléon, la double occupation autrichienne. Heureusement, on a restitué à l'hôpital une grande partie de ses propriétés et il dispose ainsi de quelques ressources.
Les religieuses restent les maîtresses de la maison. Et le docteur Pacou, pourtant ancien médecin militaire, a bien des difficultés à se faire respecter. Il s'en plaint auprès de la ville.
Un tournant a lieu en 1823, il y a tout juste 200 ans, avec l'installation du nouveau diocèse de Belley. Pour asseoir son autorité auprès de l'ensemble des religieuses, Monseigneur de Vie, le premier évêque, s'appuie sur la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph. Les religieuses de l'Hôtel-Dieu doivent rejoindre cette congrégation ou quitter l'établissement. Certaines optent pour cette dernière possibilité.
L'hôpital trouve un nouveau rythme de fonctionnement à la satisfaction de la ville, avec quelques péripéties. Le docteur Pacou crée un cours d'accouchement en 1818, mais en dehors de l'établissement. Cette école d'accouchement de Bourg, une des premières de France, est citée comme école modèle par l'Académie de médecine. Le dôme est victime d'un incendie au cours de travaux de soudure en 1843. Un fourneau est acheté pour l'apothicairerie en 1857. Une sévère épidémie de variole sévit en Bresse au cours de la guerre franco-prussienne de 1870-1871.
Peu après, le phylloxéra, un insecte, détruit le vignoble français et l'hôpital perd ainsi une partie de ses revenus. Les travaux de modernisation du début du XXe siècle ne peuvent être réalisés. Ils ne le seront que dans les années 1930-1931.
Entre-temps, il y a la Grande Guerre de 1914-1918, où l'Hôtel-Dieu est un hôpital mixte qui gère la répartition des malades dans les hôpitaux de Bourg et de la Bresse. De nombreux blessés et malades de la France entière et de ses colonies y sont soignés par du personnel médical, parfois volontaire, les religieuses et des infirmières bénévoles. Toute une œuvre de solidarité nationale. Un atelier de rééducation est aussi installé pour les mutilés.
Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale intervient. À l'hôpital, la résistance trouve des complicités. Un aviateur canadien, des résistants particulièrement surveillés, sont ainsi exfiltrés.
Dès les années 1950, la ville envisage de transférer l'hôpital à Fléria, hameau de Viria, qui est une commune limitrophe de Bourg. L'école d'infirmières s'y installe la première en 1973, puis les premiers services à partir de 1979. Le transfert est terminé au début des années 1990.
Alors, l'ancien Hôtel Dieu est transformé en une résidence de personnes âgées, selon le panneau installé à l'entrée. Et il est d'un fonctionnement coûteux. Les locaux ne sont guère adaptés à l'évolution des soins. Et il est décidé de transférer progressivement les services jusqu'en ce mois de juin 2023.
Une œuvre de plus de deux siècles s'achève. Mais notre émission se termine aussi. Nous remercions Jimmy à la technique et nous vous quittons avec les Stasi dello, d'Ennio Morricone.
Au revoir à tous. Rendez-vous le mois prochain.